Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit cours. Alors, c'est vrai que d'habitude, le jeudi, on a notre chiour du jeudi soir, mais bon, cette semaine, eh bien, on a fait le cours du soir le lundi pour Yom HaShoah. Donc, ben voilà, on a le temps de se faire un petit cours tranquillement jeudi, aujourd'hui. Alors, le cours d'aujourd'hui est un sujet, comme on a l'habitude de faire, des sujets divers et variés. Et je vous avoue que le cours, l'idée du cours, m'est venue de ma grand-mère qui me l'a demandé. Donc, mamie, c'est pour toi. Et c'est parti. Le Aïnara. Eh oui, aujourd'hui, on va parler du Aïnara. C'est parti. Alors, que les choses soient bien claires, c'est un Ashkenaz qui va vous parler du Aïnara. Et pourquoi je commence en vous disant cela? Eh bien, pour une raison très simple. On a l'habitude de dire, et c'est très vrai, que les Sfaradim croient beaucoup trop au Aïnara et les Ashkenazim, pas assez. Alors voilà, il va falloir qu'on essaye de démêler le faux du vrai. Ça existe l'Aïnara, ça n'existe pas l'Aïnara. Parce qu'on a des mécorotes sur l'Aïnara. Eh bien, les choses vont être très claires, en fait. En fait, c'est très clair. Mais avant de rentrer dans les mécorotes juives, eh bien, rentrons dans les mécorotes non-juives. Ben oui, c'est pas choute. Dans les mécorotes non-juives, eh bien, on va avoir des choses qui sont extrêmement ambivalentes. Puisqu'on va retrouver, donc, comme on l'a dit, dans le monde séfarade, un Aïnara, une croyance dans l'Aïnara de manière exacerbée, alors que dans le monde ashkénaze, pratiquement pas. Et c'est assez intéressant de voir que c'est opposé, finalement, aux croyances dans lesquelles ils ont grandi. Je m'explique. Dans le monde ashkénaze, on a grandi dans le monde chrétien. Et dans le monde chrétien, la dimension du libre arbitre est prépondérante. Tu fais ce que tu veux, tu peux faire du bien, faire du mal, ça dépend de toi, comme le judaïsme l'entend. Donc à ce moment-là, eh bien, il semblerait que si bah, tu fais ce qu'il faut, bah, t'es bécédère, tu fais pas ce qu'il faut, t'es alors bécédère. Mais il n'y a aucune force extérieure qui détermine ton identité. Alors que dans le monde musulman, sunnite, 90% de l'islam, eh bien, il n'y a pas de libre arbitre. Et donc, tout est prédestiné, comme diront nos amis Maktoub. On ne va pas refaire un cours sur le libre arbitre, on l'a déjà fait. Donc, eh bien, le Aïnara, tel qu'il est présenté dans l'ambiance générale, c'est genre magique. Si tu fais certaines choses, ça va t'amener du Aïnara. Et donc, c'est une force occulte qui va déterminer, qui va faire pencher la balance. Sauf que ça apparaît très souvent, ce genre de phrase, dans des milieux qui ont été influencés par une philosophie, une spiritualité, qui ne croit pas à ta possibilité de t'amener soit du bien, soit du mal. Donc, c'est un problème. Alors que dans le monde chrétien, on te dit, bah, c'est à toi de jouer, eh bien, quelque part, on se dit, non, mais ça n'existe pas, cette histoire de Aïna. Alors, il est temps de démêler le faux du vrai. Nous ne sommes ni chrétiens, ni musulmans. Et le Aïnara, bah, existe évidemment. D'où je le sais qu'il existe évidemment. Eh bien, tout d'abord, le makor, le premier qu'on pourra trouver du Aïnara, c'est dans la Mishnah. Dans la Mishnah dans Pirkei Avot. Dans la Mishnah de Pirkei Avot, on va nous dire que Rabbi Yehoshua nous dit que Aïnara fait partie des choses chez Motzim et Adam Mina Olam. Le Aïnara, le mauvais œil, on va voir ce que ça veut dire, serait une des choses qui sort l'homme du monde. De même façon, eh bien, on te dira que le Aïnara, dans cette même Mishnah de Pirkei Avot, eh bien, le Aïnara, c'est l'un des trois éléments qui te fait devenir élève de Bilham Arasha, face à trois éléments qui te font devenir élève d'Avraham Avinu. Eh bien, il y en a trois qui te font devenir l'élève de Bilham. L'un des trois pour être élève d'Abraham Avinu, c'est Aïn Tova. Et oui, vous imaginez bien, c'est l'inverse de Aïn Ara. Et donc, il est temps de comprendre de quoi il s'agit. D'abord, de manière très très concrète, si le Aïn Ara, c'est l'inverse du Aïn Tova, bah, essayons de comprendre qu'est-ce que c'est Aïn Tova. Mais c'est Aïn Tova qui fait que si tu l'as, eh bien, tu es un des élèves d'Abraham Avinu. Aïn Tova, c'est un Aïn global. Aïn Tova, c'est un œil général. Comment je le sais? Eh bien, tout simplement parce que si on me dit que Aïn Ra'a, c'est ce qu'utilisait Bilham, eh bien, je me rappelle de la paracha de Chukat, de Balak, Slicha, lorsque Bilham va faire tout son stratagème pour maudire le peuple juif, eh bien, lorsqu'il ne va pas réussir dans son premier coup, eh bien, qu'est-ce qu'il demandera par trois fois à Balak? Il lui dira, amène-moi à un autre endroit, parce que de là où j'étais au début, j'avais une vision globale du peuple juif, je n'arrive pas à les atteindre de manière globale, donc amène-moi à un autre endroit que je puisse voir une partie du peuple juif. Et là-bas, eh bien, j'arriverai à les maudire. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est Aïn Hara? FS4CU tiré. C'est avoir une vision très spécifique sur un point. Si je me concentre sur un détail, eh bien, j'ai une forte chance d'être négatif. Eh oui, regarde-moi ça. Il est. D'ailleurs, quand on veut être très très plein de Aïn Ra'a à la Metziout, on utilise des termes génériques du style oh là là, il range jamais rien. C'est pas vrai. Des fois, il range. Mais toi, tu te concentres sur cette fois-là où il n'a pas rangé et dis il range jamais rien. Oh là là, il sait jamais bien faire la vaisselle, celui-là. Il fait très bien la vaisselle, mais là, il a oublié une tâche. Oh là là, il va jamais, je sais pas moi, il va jamais étudier celui-là. Bon, là, il se trouve qu'il étudie, mais il va jamais étudier. En gros, Aïn Ra'a, c'est lorsque tu te concentres sur un point de détail et que donc tu enlèves une vision générale du monde, de la personne dont tu parles et Bichlal du monde. Et oui, parce que lorsque tu te concentres sur un détail, eh bien, en fait, tu t'enlèves tout simplement du dévoilement de Dieu. Dieu a créé le monde entier. Dieu est un. Et donc, si tu te considères sur une chose en mettant de côté les autres, eh bien, tu t'éloignes de Dieu. C'est pourquoi la Mishnah nous dira « Aïn Ra'a », ça fait partie des choses qui sortent l'homme du monde. Ben oui, parce qu'il n'est pas dans le monde global que Dieu a créé, puisqu'il ne se concentre que sur une chose. Donc le Aïn Ra'a, d'abord, c'est d'avoir une vision extrêmement restrictive, étriquée, donc du monde, et donc du dévoilement de Dieu. Quelque part, Aïn Ra'a, c'est mettre en avant un côté par rapport aux autres côtés. Mais Rabotai, ça, c'est la définition même de la Avodah Zara. La Avodah Zara, l'idolâtrie, c'est prendre une force et la mettre sur un piédestal par rapport aux autres. Lorsque tu prends une force et que tu la mets sur un piédestal par rapport aux autres, eh bien, c'est Avodah Zara. Il y a le soleil, il y a le vent, il y a la pluie. Dans le judaïsme, on croit au monothéisme, c'est-à-dire... Akadosh Baruch Hu est un. Tout dépend de lui. Ne voir qu'une seule chose, eh bien, c'est évidemment ne pas être élève d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui était l'élève de Dieu par excellence, et donc nous, on veut devenir ses élèves, eh bien, c'était Avraham Avinu. Avraham Avinu, il avait Aïn Tova, c'est-à-dire cette capacité de voir les choses de manière globale. C'est ce que dira le Rav Kook. Le Rav Kook, dans son livre Oroth, dans la partie qui s'appelle Oroth Israël, dit cette phrase incroyable. « Avatenu leumatenu » notre amour pour notre peuple. « Lo tesame etenenu milevaker et kol mumea » ne nous empêchera pas, c'est pas parce que tu es amoureux du peuple juif que ça va t'empêcher de dire là où ça va pas. « Aval gam achare abikoret ayoter chofshit » mais même après qu'on ait pris de porter les critiques les plus libres, eh bien mon amour reste intact. Chene Emar, il cite un verset de Shira Shirim qui dit « Kulach yafa ra'ayati umum enbach » Tu es totalement belle, ma bien-aimée, et chez toi, il n'y a aucun défaut. Comment est-ce possible que tu sois totalement belle? Eh bien, parce que je te prends de manière générale. Kulach, prenez une femme, bon, je ne vais pas vous dire la mienne, mais disons que ça marche avec la mienne, évidemment, mais ça marche certainement avec vos femmes aussi. Tu te prépares pour sortir à un mariage. Et elle sort de la chambre prête la folie. Et quand elle te dit, elle a même pas le temps de te dire comment je suis, que tu es déjà. Et là, elle fait ce truc très bizarre qui est de se rapprocher de manière beaucoup trop dangereuse du miroir. Et elle va trouver que là, il y a un morceau du maquillage qui a bavé. Toi, qui étais plein de Aïn Tova pour ta bien-aimée, eh bien, tu ne voyais pas le petit côté. Alors, c'est Hamoud, mais c'est pas bien. C'est-à-dire que si tu aimes vraiment ta femme, eh bien, tu peux lui dire qu'elle est magnifique, et c'est parce qu'elle est magnifique que tu remarques que là-bas, ça a bavé. Ça n'enlève rien à sa magnificence, mais ça a bavé. Si tu veux, tu peux corriger. Donc, être plein de Aïn Tova, ça ne veut pas dire ne pas voir là où il y a des problèmes. Mais c'est être capable de mettre ses problèmes à l'intérieur d'un prisme général. En d'autres termes, le Aïn Hara, c'est l'inverse. C'est n'être pas capable de voir le général parce que je suis concentré sur un point qui est en général négatif, évidemment. Mais ça, c'est une définition. Est-ce qu'on peut voir une action de Aïn Hara ? Eh bien, si on va regarder dans le Talmud, dans Maseret Brachot, on voit qu'à l'époque, ils savent très bien que ça existe, ce Aïn Hara. Mais c'est quoi ce Aïn Hara qui existe ? Ben, on ne sait pas encore, mais la Gemara nous dit, dans le traité de Brachot, que si jamais tu as peur du Aïn Hara, eh bien tu dis, je suis le fils de Yosef, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn, qui est au-dessus, au-delà de cet œil. C'est-à-dire que Yosef, tu veux te rattacher à lui. Pourquoi ? Pourtant Yosef, il en a bavé, hein. Il a été vendu en esclavage par ses frangins, il est arrivé en Égypte, il a été accusé de viol, il est passé en prison. Enfin, il a vécu des péripéties. Et pourtant, dans la bracha que Yaakov va donner à Yosef, te dit que tu es au-delà de tout œil. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire simplement que si tu n'avais pas été Yosef, tout ce qui t'était arrivé t'aurait certainement brisé. Mais toi, Yosef, il n'y a pas d'emprise là-dessus. Il n'y a pas d'emprise sur toi. C'est pourquoi il n'y a pas d'emprise sur toi ? Eh bien, Yosef, tu es Kolel. Yosef, tu as toujours été là depuis ta naissance pour rajouter, pour ne pas te satisfaire d'une vision X ou Y. Tu es là pour rajouter. Et oui, c'est la signification de son nom. Vous savez, lorsque les tribus d'Israël sont nées, eh bien à chaque fois on nous raconte les péripéties et ce que pense la mère au moment de la naissance, et ça nous explique le nom. Par exemple, Reuven, Ra'a Hashem Be'oni, elle a vu, Dieu a vu ma souffrance, donc elle a appelé son fils Reuben. Il a vu mon fils. Ou alors Shama Hashem, donc elle a appelé Shimon. Apam Yilave, Lévi. Apam Odet Hashem, Yehuda. Lorsque naît Yosef, eh bien, nous dit Rachel, oh, Asaf Elohim et Kherpati. Nous, Asaf Elohim et Kherpati, ça veut dire quoi ? Qu'il a enlevé ma honte. Ben c'est très bien, donc comment est-ce qu'il aurait fallu appeler son fils ? Asaf ! Eh oui, il fallait l'appeler Asaf ! Puisque Asaf Elohim et Kherpati, eh bien non. Patikra et Shemo Yosef. Pourquoi ? Yosef li ben Acher. Que Dieu me rajoute un autre fils. Binyamin en l'occurrence. En d'autres termes, le mot Yosef veut dire j'en veux plus. Je ne peux pas me satisfaire d'un côté, il me faut toujours le plus, le plus, le plus. Donc, être fils de Yosef, être l'élève de Yosef, c'est pour ça que la Gemara nous dit tu as peur du Aïn Hara, rattache-toi à Yosef. Puisque Yosef, c'est la dimension du klal, du général. C'est pourquoi Yosef sera également dans l'histoire celui. Bonjour, bonjour. Nous sommes en direct. Enchanté.
Shalom.
Ma.
Zélon
ira l'hypore. Oui, ce sont les inconvénients du direct. Donc, Yosef est celui qui en rajoute toujours. Donc, si tu veux te rattacher à cette dimension collective, eh bien, tu te rattaches à Yosef. Alors, on a vu la définition du Aïn Hara. La question, c'est de savoir est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche avant de savoir pourquoi et comment ça marche ? Est-ce qu'on aurait une preuve que ça marche ? Eh bien, on en a. Elle nous est amenée par Rashi, dans le livre de Bereshit. Dans le livre de Bereshit, eh bien, on se rend compte qu'il y a une dame qui s'appelle Agar. Vous connaissez l'histoire, Abraham n'arrivait pas à avoir d'enfant avec Sarah. Et donc, il a pris Agar. Et lorsqu'il prend Agar, eh bien, dans la Torah, on voit que d'abord, elle va être, elle va se comporter n'importe comment avec Sarah. Elle va se la jouer genre, maintenant que je suis enceinte, tu n'as plus rien à me dire, machin. Alors que je vous rappelle que c'est la servante de Sarah et c'est Sarah qui l'a donnée à Abraham. Donc, c'est bon. Et donc, Sarah commence à la remettre à sa place et Agar fuit. Là-bas, elle rencontre le Malach et on voit que là-bas, elle est enceinte. Seulement, le Malach va nous dire que, en fait, elle va avoir un bébé et Rashi nous explique que ce n'est pas de cette grossesse-là dont on parle. Quand il lui dit « retourne sous la domination de Sarah », retourne à la maison, quoi. Eh bien, là-bas, elle était enceinte, mais elle va avorter et elle retombera enceinte et elle aura un fils qui s'appellera Ishmaël. Rashi nous dit pourquoi est-ce qu'elle a avorté à cause du Aïnara de Sarah. Textuellement, Rashi nous dit « Biglal Aïnara shel Sarah ». Donc, on voit ici un cas évident dans la Torah qui montre que ça marche, le Aïnara. Donc, maintenant qu'on a expliqué tout cela, il faut essayer de comprendre « Tov beseder aval lama ». Comment ça marche? Pourquoi ça marche? L'Aïnara, de manière tout à fait générale, on a dit, quand je vois une vision spécifique, mais donnons un exemple. « Oh la vache! Mais quelle nouvelle voiture! Papa, je ne savais pas qu'il pouvait se payer cette nouvelle voiture! Hein? Petit cabriolet décapotable! » Et bam, l'après-midi, il a un accrochage et on lui raye tout le côté gauche. Aïnara. Le mec, il a mis l'œil. Jamais c'est en mer. C'est magique? Quoi, si je dis, ah, il ne mérite pas d'avoir ça, c'est magique? Ce n'est absolument pas magique. Comment ça marche, le Aïnara? Au moment où je viens et je dis, papa, la nouvelle voiture! Qu'est-ce que je suis en train de dire en fait à Dieu? Je suis en train de dire deux choses. Premièrement, eh ben, il mérite un truc comme ça, lui. Et là, ça rejoint totalement ce qu'on disait, cette dimension de vision partielle, parce que tu te réfères à tous les problèmes qu'il a et toutes les avérotes qu'il a pu faire, et tu te dis dans ta tête, ah bon? Donc lui, il se comporte comme un pourri, mais il mérite d'avoir une voiture comme ça. Ça, bravo. Ça, c'est le Aïnara. Tu ne sais pas tout ce qu'il fait de bien. Tu ne peux pas le juger de manière générale. Tu te concentres sur les problèmes et donc tu dis, ah, c'est pas juste. Genre, lui ne mérite pas. Ou alors, il y a une autre forme, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je me concentre d'abord sur la première. Il ne mérite pas. Hachéla, Aïm ze emet, olo emet. Est-ce que c'est vrai que cette personne en face de moi ne mérite pas ou est-ce que ce n'est pas vrai? À ce moment-là, ben, qu'est-ce qui se passe dans les cieux? Lorsque je viens et je fais cette critique-là, ah, je ne savais pas qu'il avait droit à une nouvelle voiture celui-là, eh ben, alors bon? Eh bien, je viens demander midat din. Je viens demander le din. Je viens demander à Dieu, est-ce que Behemet Magialo, est-ce qu'il mérite? Peut-être que pour l'instant, tout ce qu'il a eu de bienfait, c'était pas Alpiadin, mais c'était Midatarachamim, Midatachesed. Et moi, je viens demander à Dieu le din. Et à ce moment-là, eh ben, Kadosh Baruch Hu est obligé de faire preuve de Midatadin. Et peut-être que Alpiadin, eh bien, il ne mérite pas. S'il mérite Alpidin, aucun Aïnara ne peut faire quoi que ce soit, parce qu'il mérite. Et comprenez-moi bien, l'Aïnara, ce n'est donc pas magique. Ce n'est pas l'incantation qui va faire que la personne a un problème, c'est la faute qui est véritablement là, que la personne a faite, quelque part, qui pourrait amener à un problème. C'est-à-dire, c'est pas parce que moi j'ai dit une formule magique, oh ben alors, je savais pas que ça lui méritait. C'est une fois qu'on a ouvert le dossier Midatadin, ben il est ouvert. Mais je te rassure, si on te parle de Midatadin, alors, Midatadin, pas de problème. C'est-à-dire, le mec qui vient et qui dit « Ah bon, il mérite un truc comme ça !» Ah, t'as ouvert le dossier Midatadin, pour toi aussi, on va ouvrir le dossier Midatadin, alors. n'en viens pas te plaindre. Si toi, tu commences à être, comment on dit en français, mécané, jaloux, et tu demandes à Dieu qu'il soit juste, bah, il devra être juste avec toi aussi. On ne vient pas te plaindre que toi aussi, après, tu as des problèmes. De la même façon que nous dit la halakha, « Mishe mitpalel al chavero na'ana techila » C'est-à-dire quelqu'un qui voit que son prochain, il a un problème. Il n'arrive pas à avoir d'enfant. Avec sa femme, tout, ils essaient, ils n'arrivent pas à avoir d'enfant. Et il fait une tefila de tout son cœur pour lui. Alors que lui-même n'a pas d'enfant. La halakha nous dit qu'à ce moment-là, il est exaucé lui d'abord, avant la personne pour qui il a prié. Pourquoi ? Parce qu'il a demandé « Rachamim vechesed » pour l'autre. Alors on ouvre aussi la boîte « Rachamim vechesed » pour lui. Donc si tu as demandé « Midatadin » pour l'autre, tu n'as pas à te plaindre qu'il y ait « Midatadin » pour toi. Ah, ça, c'est une réalité. Donc, si tu veux, lorsque je viens et que je viens demander la justice, bien Dieu fait en sorte que la justice soit mise en avant. Donc, ou il mérite, ou il ne mérite pas. Là où je vous disais tout à l'heure qu'il peut y avoir une autre version de « je vois la, mon prochain avec quelque chose d'incroyable ». Et on peut avoir ce qu'on appelle « kinat sofrim tarbe chokhma ». De dire par exemple « waouh, j'ai mon copain, il vient de terminer il a fait un sioum du chasse ». Ça peut être soit en mode « on voit que c'est une personne qui n'a rien à faire de sa journée, il a le temps d'étudier la Torah toute la journée. Alors, bravo ! » Donc là, on peut arriver, comme on a dit dans Midat Hadin, est-ce qu'il mérite vraiment d'étudier ? Ou alors, ça peut être, waouh, il a réussi. Psst. Mais attends, si lui, il a réussi, moi aussi, je peux réussir. Et ça te motive à toi aussi faire des choses. Waouh, il a réussi à se payer cette nouvelle voiture ? C'est génial, quoi qu'à vote pour lui. Bon, mais c'est-à-dire que moi aussi, je peux bosser plus. Je peux réussir mieux. Je peux me mettre plus à fond et tout. Kinat sofrim tarbe chokhma. Ce n'est pas forcément négatif. C'est-à-dire que des fois, tu ne convoites pas la femme de ton prochain, ça c'est interdit par la Torah. Mais par contre, tu dis que ton prochain est pour toi une source d'inspiration. Tu es très content pour lui, mais tu veux aussi. Mais tu vas faire en sorte que tu mérites. Eh oui, c'est ça tout le truc. Le Aïnara vient prendre ses bases dans la dimension de mérite, dans la dimension de justice. Tu veux que toi aussi, tu en sois ? Allez, à toi de le mériter. Donc, pour revenir à notre débat de départ, est-ce qu'il faut y croire ? Est-ce qu'il ne faut pas y croire ? Barour que la façon dont certaines personnes, alors je ne vais pas mettre tous les Sfaradim dans le même pâteau, évidemment, mais la façon dont certaines personnes croient au Aïnara et s'en protègent, entre guillemets, ce n'est absolument pas comprendre le Aïnara. De dire que je vais mettre un œil autour du cou parce que c'est Aïn et je veux qu'il y ait un bon œil sur moi. Mais c'est un gris-gris, c'est un boui-boui de se mettre un œil. Je me mets un poisson. Pourquoi ? Bah parce qu'effectivement, d'après la tradition juive, le poisson qui est sous l'eau, pourquoi ? Parce que l'œil ne voit pas ce qui se passe sous l'eau. C'est bien, mais c'est un symbole. La symbolique, elle n'a d'importance que lorsqu'elle révèle une réalité concrète. En mikra yotse mide pshuto. Tu ne peux pas te mettre un poisson et être un pourri dans la vie et penser que la koltov, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Tu peux comprendre ce que représente la symbolique de l'eau et de ce qui est mitachat lamaim et donc le mettre en pratique dans ta vie. Ça, oui. Tu peux comprendre ce que c'est que, comme on a dit, donc le Aïnara, la vision partielle. Et donc, tu veilles un gros œil comme ça sur toi pour te rappeler qu'il faut avoir une vision collective et bénéfique. Mais ce n'est pas l'œil en lui-même qui fait quoi que ce soit. Il en va de même pour le fil rouge. Hein. Ah non, attention. Ah, le fil rouge, c'est quand même très, très haut placé dans le top des absurdités. Ah oui, non, mais attention. Non, parce que par exemple, le fil rouge, on te dit que c'est Sgoula, la Parnassa. C'est une grande Sgoula pour la Parnassa. Oui, comme disait mon maître le Rav Cherki, enfin, il le dit toujours. Oui, oui, c'est vrai, c'est très vrai. C'est une grande Sgoula pour la Parnassa de celui qui le vend. Ah oui, celui qui le vend, ça marche très bien. C'est absurde. D'ailleurs, le fil rouge que tu reçois au Kotel, ne t'en fais pas. Hein. Il a été acheté la pelote de laine le matin même au chouk. Hein. Ça n'a rien de magique. C'est absurde. D'ailleurs, si tu regardes l'origine du fil rouge, tu vas avoir des sacrées surprises, mon ami. Eh oui, parce que l'origine du fil rouge, il n'est pas très positif. Ah ben non. La première fois qu'on voit un fil rouge dans la Torah, c'est lorsque Peretz et Zerach, les enfants de Tamar et Yehuda, vont naître. Eh bien, Zerach sort le bras en premier. La sage-femme, voulant montrer de marquer le coup que c'est lui l'aîné, parce qu'il y avait des jumeaux, machin, elle voit le bras sortir, elle lui attache un fil rouge. Sauf qu'à ce moment-là, il rentre le bras et Peretz, s'il le coiffe au poteau, il sort en premier. En d'autres termes, le fil rouge, le premier de l'histoire, n'a pas marché. Genre, le fil rouge, c'est le truc qui ne marche pas. Et puis après, le deuxième fil rouge qu'on verra, c'est pour le symbole, pour faire sortir Rahav de sa maison. Donc tu me dis, ah ben ça marche, c'est bon. Mais ce n'est pas une question de mazal. C'est un symbole, c'est un signe distinctif pour que les soldats d'Israël qui rentrent dans la ville de Yericho, alors que Rahav avait sauvé Kalev et Pinchas, eh bien, elle a demandé qu'on l'épargne, elle et sa famille. Ils ont dit, ok, mais pour qu'on sache quelle maison est la tienne quand on va venir de loin avec toute l'armée, eh bien, mets un fil rouge à ta fenêtre. Comme ça, tout le monde verra que la fenêtre où il y a un fil rouge, c'est la maison qu'il ne faut pas attaquer. C'est-à-dire, mais ce n'est pas parce que... truc. Donc, ça n'a rien de magique, là, encore. La Gemara Bichlal va nous dire que on a le droit de peindre les racines d'un arbre en rouge et que ça n'est pas un signe de Avodah Zara, car c'était à l'époque un des services divins, entre guillemets, des Émoréens, de peindre des arbres de plusieurs couleurs. Et donc la Gemara nous dit que tu as le droit de peindre les racines d'un arbre en rouge uniquement si c'est pour montrer à tout le monde que cet arbre-là est malade, il a été attaqué par, je sais pas, des bêtes, machin, nanana, et que tu veux savoir, tu veux indiquer aux gens pour quel arbre il faut prier. Quel est l'arbre malade et pour lequel on veut qu'on prie. Donc c'est juste un truc. Alors si effectivement tu mets un fil rouge pour montrer à tout le monde que tu es malade et que tu veux que les gens prient pour toi, la brioute. Mais sinon, c'est pour ça que moi je dis lançons le fil bleu, le fil vert, lançons le fil multicolore. Je suis sûr qu'on peut trouver des gématriotes sur le multicolore. Donc calmons-nous. Le Aïnara à outrance, que je m'en protège par des trucs magiques, eh bien ce n'est absolument pas comprendre la dimension profonde de Midat Hadin. D'un autre côté, de dire le Aïnara ça n'existe pas, eh bien, c'est ne pas comprendre la dimension profonde de Midat Hadin. Donc, il faut avoir un juste milieu. À savoir que le Aïnara, ça existe, ça marche, mais que ce n'est pas ça qui détermine ma vie. Puisque la personne peut me mettre l'œil, mais si moi, je mérite ce que j'ai reçu, eh bien, son œil ne pourra pas du tout interférer avec moi-même. Alors, les gens disent « Kenayin Hure » chez les Poilonim, chez les Poilishim, chez les gens qui parlent un peu en yiddish, ils disent Kenayin Hure, contre qu'il n'y ait pas de Aïn Hara. Toi, chez nos frères séfarades, je n'ai pas besoin de vous faire le détail, Aïn Hara, c'est à toutes les sauces. Eh bien, je dirais la chose suivante. Aïn Hara, c'est Emet. Aval Maché Yoter Emet, ce qui est encore plus vrai que le Aïn Hara, c'est le mérite qui est le tien par tes actions. Donc, tu veux te sortir du Aïn Hara? Bah, très simplement. Et un Aïn Tova, d'abord. Regarde les gens dans leur généralité, donc avec bienveillance. Et grâce à cela, regarde-toi aussi avec grandeur et bienveillance. Et donc, tu pourras, grâce à cela, mériter tout ce qui t'arrive. Et à ce moment-là, plus personne ne pourra avoir d'emprise sur toi. À bientôt, les amis. Et ouvrez l'œil.